Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis quelques années, les réseaux sociaux ont gagné du terrain et du public. Dans notre actualité, ils semblent omniprésents, autant comme vecteur médiatique que comme forum populaire. Les informations y glissent, y courent, telles des rumeurs. Ils laissent bien souvent une part de leur intégrité. Mais ces réseaux sociaux introduisent surtout un problème majeur de notre société. Ces informations, en passant de main en main, perdent de plus en plus de sens, de qualité, au profit de l'instantanéité. Parallèlement, une autre conséquence de cette conversion médiatique, tout aussi grave, émerge. Nous voyons en boucle les mêmes informations, ou bien des informations sans base morale, ni source légitime. Un concentré de rumeurs, en somme. Et, à force, celles-ci perdent en valeur. Elles deviennent banales. Ainsi, les scandales politiques et financiers, une perte de sens du rôle et de l'enjeu politique, le populisme croissant, la démagogie au détriment de la démocratie, les frasques d'une Europe de moins en moins unie et solidaire, ou encore les frontières européennes et les migrants, qui parfois meurent de noyade ou de froid pour se faire une place dans notre société, sans parler de toutes les femmes violées, mutilées ou prostituées durant leur passage en Libye, un pays devenu plaque tournante de la traite des êtres humains, sans parler même de tous ceux qui subissent les conflits et les bombardements, mais qui n'émigrent pas, du Congo, de l'Afghanistan, de la Syrie. Ces informations nous parviennent, font partie de notre quotidien à distance, et par un processus de normalisation insidieux, mais proprement humain, deviennent presque banales. Elles semblent devenir, loin des bombes, des contextes dictatoriaux et des libertés bafouées, une routine qui finit par être approuvée, sans plus de réflexion. Mais cette tendance à la banalisation ne date pas d'hier. Déjà au Moyen-Âge, Saint Augustin, qui posa les bases de la scolastique et de la philosophie de son temps, a écrit « À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. Et à force de tout accepter, eh bien on finit par tout approuver. » Avec cette réflexion, le philosophe pose un constat inquiétant. Quand la société perd ses repères, quand elle accepte ce qu'on lui sert de repas sans plus jamais porter un regard éclairé sur ce qu'elle mange, elle peut se mettre à manger n'importe quoi, pour le plus grand danger de nos principes démocratiques. Alors, ce soir, en me basant sur cette citation de Saint Augustin, je protesterai contre la banalisation massive, contre l'indifférence, pour vous prouver l'importance de la conscience citoyenne pour la garantie de notre démocratie. Nous vivons à une époque où, très clairement, les institutions sont en crise. Les référentiels moraux, qui étaient auparavant d'usage, perdent de crédit et la population se retrouve sans repère, livrée à sa propre prise de position, qui est bien souvent limitée. Dans ce sens, José Arthur a dit « Qui suis-je ? Où vais-je ? Qu'est-ce qu'on mange à midi ?» Ces citations dénoncent la population désintéressée, qui place davantage d'importance dans les futilités du quotidien que dans les questions morales et sociétales. C'est ainsi que la majorité de la population n'accorde plus d'importance ni de temps à la lecture, aux apports culturels, aux initiatives citoyennes, aux négociations politiques, ou bien à ce qui peut se passer à un plan international. Ces gens se contentent d'accepter ce qui les entoure et finissent par confondre les simplismes, les manipulations rhétoriques avec la réalité. Mais l'incapacité à faire la part des choses entre les valeurs qui nous correspondent et les événements que nous ne pouvons tolérer parce qu'ils sont en désaccord avec notre vision du monde, cette indifférence peut s'avérer bien plus préoccupante qu'au stade d'une population avachie dans son canapé, et amorphe dès qu'il s'agit de regarder plus loin que son quotidien. Dans certaines circonstances, dictatoriales ou liberticides, cette apathie devient purement dramatique. Il y a quelque temps, je suis tombée sur le travail d'une grande philosophe du siècle dernier, qu'il me plaît de défendre ici parce que, si elle n'a pas défendu directement le féminisme, elle est l'image d'une femme brillante et forte, et qu'elle a littéralement changé ma vision du monde. Hannah Arendt. Cette penseuse politique a vécu en tant que juive sous l'Allemagne nazie, et elle s'interrogea beaucoup sur les conditions qui pouvaient amener des êtres humains à perpétrer des actes abominables pour nuire à d'autres. Hannah Arendt réalisa justement sa thèse sur Saint-Augustin. C'est très certainement son intérêt pour le philosophe, et pour cette citation, qu'elle créa l'un de ses plus grands concepts à elle, la banalité du mal. Arendt découvrit ce concept en se rendant en 1960 au procès d'Adolf Eichmann, un haut dignitaire nazi, responsable à lui seul de la déportation de près de 500 000 juifs hongrois vers les camps de la mort et les chambres à gaz. Alors vous me direz, quel rapport entre ce monstre et les citoyens normaux qui ont tendance à banaliser ce qui les entoure? En fait, Arendt s'est rendu compte qu'Eichmann n'était pas un monstre. Il était inculte, certes, désintéressé de tout, de la politique, dénué de référentiels moraux, médiocre, mais médiocrement normal. À force d'entendre les propagandes fascistes, à force de tolérer l'ambiance ségrégationniste et liberticide, à force de tolérer les pogroms à répétition et les rafles quotidiennes, les colibés juifs, mais aussi la déshumanisation de toute une population, lui qui ne se sentait pas concerné, il a fini par accepter les atteintes aux libertés. Et à force de tout accepter, il a fini par l'approuver, parce que c'était devenu normal, que l'horreur était devenue banale, et qu'il n'y avait plus aucune limite pour faire la distinction entre le bien et le mal. Cette banalisation n'a rien d'anodin. Et l'enseignement d'Hannah Arendt est simple. Toute personne non avertie peut agir comme Eichmann. N'importe lequel d'entre nous. Nous avons toute cette faculté latente à perdre notre esprit critique si nous n'y prenons garde. Et l'époque n'y change rien. S'il ne faut citer qu'un seul autre exemple, je citerai le cas du Rwanda, où il y a moins de 25 ans, une partie de la population a massacré à la machette ses voisins, parce qu'à force d'entendre de la haine raciale, par une longue construction de la haine, on finit par approuver un génocide et à y participer, en niant totalement la partie éthique de l'humain que nous sommes. Face à ces deux dérives extrêmes, et pour conclure mon passage en ce tournoi, je pense qu'il faut arrêter l'indifférence à son commencement, si l'on veut éviter autant le totalitarisme que les catastrophes humaines. Car la démocratie n'est jamais acquise. Et si la tendance à l'apathie est humaine, elle restera toujours latente dans notre société. Pour cette raison, il est capital, à mon sens, de combattre la passivité et le manque d'implication citoyenne. Mais je ne me fais pas de soucis pour ça. Cette lutte est possible, et elle existe. De nombreux exemples le prouvent. Les résistants et les objecteurs de conscience qui dénoncèrent la persécution nazie ou le génocide rwandais existent dans notre passé. Mais d'autres acteurs sont présents aujourd'hui. Les plateformes citoyennes, comme la Porte d'Ulysse, qui héberge des migrants et refuse de les considérer comme une foule de numéros anonymes. Dans le même contexte, les policiers, qui font preuve de désobéissance civile en divulguant à l'avance les descentes de police aux abords de la gare du Nord à Bruxelles, en prônant le respect des droits de l'homme. Les sphères universitaires et politiques, qui condamnent les dérives gouvernementales comme les visites domiciliaires. Et tous les gens qui manifestent dans la rue, enseignent à leurs élèves des valeurs, livrent des travaux journalistiques de qualité. Et tous les autres, qui guérissent, d'une manière ou d'une autre, l'apathie sociétale avec de l'éducation civique. Ils sèment tous, à leur manière, des graines d'espoir. Car refuser l'indifférence, opposer un non catégorique aux dérives qui émanent du manque de culture et d'esprit critique, cette conscience citoyenne est la seule garantie de notre démocratie et du respect inconditionnel de nos libertés. Merci.
Dans une conversation, est-ce la même chose de dire « nous et vous » qui glisse parfois entre « nous et eux » indépendamment des personnes grammaticales, je répète, on dit « nous et vous ». Est-ce que « nous et eux », est-ce que le « eux » correspond au même « où » vous bon.
Je pense, la première chose à laquelle me fait penser cette citation est une affiche qui est posée dans mon école, dans la salle d'études, et qui dit « il faut utiliser les bonnes personnes grammaticales, parce que sinon on a des problèmes. Quand on dit « je », on ne dit pas « nous », on n'inclut pas le groupe. Quand on dit « vous », on ne dit pas « eux », parce qu'on ne parle pas des mêmes personnes. Je pense que le langage est extrêmement important, parce qu'il conditionne notre façon de penser, notre façon de communiquer avec les autres. Et ainsi, il est clair que « nous », « vous », « eux », ce ne sont pas les mêmes personnes.